Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 20 mars 1992 à Saint-Jodard.
Continuons cette recherche sur l'être en tant que vrai. Comme seconde modalité d'être en acte. Je vous disais hier, un des problèmes, pour ne pas dire le problème foncier au point de vue métaphysique, cette relation entre la pensée et l'être. Qui commande, qui détermine? Est-ce la pensée? Est-ce l'être? Quand vous voulez saisir la qualité d'une pensée métaphysique, vous devez tout de suite regarder cela. Et nous le voyons dès que nous réfléchissons sur nous-mêmes. C'est que notre pensée vient en second. Facile à comprendre au point de vue génétique. Est donc relative. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que justement, lorsqu'il s'agit du vrai, nous voyons qu'il y a tout de suite ce problème double de l'être vrai et de la vérité. C'est C'est très étonnant, ça. Ça nous met en présence de quelque chose de très particulier. La possibilité de l'intelligence de porter sur elle-même sa propre critique. L'être ne se critique pas, la pensée se critique. Puisque je regarde les rapports entre pensée et être. Si la pensée se critique, ça prouve qu'elle connaît sa fragilité. L'être ne se critique pas, il est. Mon être, je ne le critique pas. Oui, c'est intéressant parce que c'est quand même là, vous voyez, l'aspect premier de la métaphysique, au-delà de la critique. Alors là, c'est une visibilité absolue. Et c'est vrai, l'être s'impose, il est. On peut très bien ne pas le constater, pas le connaître, mais il est. Tandis que la pensée, dès qu'elle atteint l'être, se critique. Elle a la possibilité de se dédoubler. Parce que pour se critiquer, il faut se dédoubler. Il faut prendre de la distance. L'être ne prend jamais de distance par rapport à ce qu'il est. Et c'est pour ça que laisser. C'est absolu. Peu importe sa modalité. Ah oui, on dira que tel être est corruptible, mais il est. Et en tant qu'il est, il s'impose à ma connaissance. Tandis que ma connaissance ne s'impose jamais à l'être. Ma connaissance s'efface devant l'être. Elle est réceptive. Elle accueille. Et le mot d'Aristote est très significatif. L'upolipsis. Considère que c'est l'acte premier de l'intelligence, l'upolipsis. Elle est accueillante, elle reçoit. Et en recevant, elle se considère elle-même comme relative. L'intelligence a besoin de l'être. Ça veut dire que l'être a besoin de l'intelligence. Oui et non. L'être parfait est intelligence. Et quand je dis que l'être parfait est intelligence, je ne veux pas dire que l'être a besoin d'intelligence. Puisque l'être peut exister sans l'intelligence. Mais l'intelligence ne peut pas exister sans l'être. Elle ne peut pas être en acte. Elle est actuée par l'être. Oui, c'est là où on comprend pourquoi il y a deux actes, deux modalités d'actes quand il s'agit du vrai. Il y a deux modalités d'actes. L'être vrai, qui en définitive, c'est l'être en acte, capable d'actuer l'intelligence, capable de déterminer l'intelligence. L'être vrai, c'est l'être en acte, capable de déterminer l'intelligence. Donc, qui actue ? Et qui actue l'esprit ? Ce qu'il y a de plus digne dans l'être, c'est d'actuer l'esprit. Et ça, c'est l'être vrai. Donc, en parlant être vrai, on montre la supériorité de l'être, l'antériorité de l'être sur l'intelligence, sur l'esprit. Et ça, c'est capital de découvrir ça. Parce que c'est ça qui caractérise la philosophie réaliste. Et vous voyez, tant que je n'ai pas atteint l'être en acte, je ne sais pas très bien ce que c'est que le réalisme. C'est vraiment à partir de cette découverte de l'être vrai le réalisme s'impose à moi comme la seule philosophie qui respecte la réalité et donc qui respecte l'homme. Parce que si je ne respecte pas la réalité, je ne respecte pas l'homme. Comme ce qui est antérieur pas l'être existant. Mon intelligence prétendra tout mesurer. Vous voyez, l'orgueil de l'intelligence apparaît à ce moment-là. Et je vois bien que mettre l'intelligence avant l'être, c'est une intelligence qui est capable de réfléchir sur elle-même, s'enorgueillit. Elle veut dépasser l'être. Et donc, elle s'impose comme ce qu'il y a de plus parfait. Et tu le dis. L'intelligence, découvrant sa dépendance à l'égard de l'être, reconnaît que l'être passe devant et qu'elle-même ne peut progresser qu'en respectant ce qui est. Mais l'intelligence, cependant, en étant actuée par ce qui est, possède en elle-même une certaine noblesse. Cette noblesse très particulière de pouvoir posséder la vérité. Être elle-même vraie. L'intelligence est vraie quand elle possède la vérité. Tandis que l'être ne possède pas la vérité. Il est. C'est très curieux, là. Et je crois ça important à souligner et à essayer de comprendre ce que ça signifie. L'intelligence actuée par l'être en acte, capable de réfléchir sur elle-même, parce qu'elle n'est pas matérielle, parce qu'elle n'est pas quantifiée, parce que son exercice d'intelligence est au-dessus de la matière et dépasse tout l'aspect quantitatif. Donc elle n'a plus cet aspect de succession, de juxtaposition d'acte après un acte. Il peut y avoir à l'intérieur même de la vie intellectuelle cette auto-lucidité qui permet cette réflexion. Je sais que je pense. la certitude la plus grande. Je sais que c'est très intéressant, cette petite remarque de Descartes, qu'Aristote avait déjà faite, du reste. Aristote s'était posé la question, d'où vient la noblesse des mathématiques ? Puisque pour lui, les mathématiques étaient nées dans un milieu sacerdotal et donc exprimaient une dignité très particulière. C'est cette fameuse phrase d'Aristote. Les mathématiques sont nées en Égypte, dans la classe de sacerdotal qui avait des loisirs. Mais elle occupait bien ses loisirs. À regarder la télévision, mais même à faire des mathématiques. Et à ce moment-là, à être à la tête de la culture. On peut dire que la culture a commencé par les mathématiques. Ça, je crois. Génétiquement, au plan génétique, elle a commencé par les mathématiques. Parce que ça a été le premier moment d'une connaissance universelle. Premier mode de la connaissance universelle. Et c'est là où dit Aristote, où il y a la plus grande certitude. Donc, la certitude apporte à l'esprit quelque chose de spécial. C'est le fruit d'une évidence. Je suis certain. C'est évident, je suis certain. Cette certitude peut être vraie ou fausse. C'est ça que Descartes n'a pas vu. Vous voyez, Descartes n'a pas vu ce que c'est que l'être en acte antérieur à la pensée. Et c'est pour ça qu'il met la certitude. C'est vrai que la certitude est une qualité de l'esprit. L'esprit demande d'être certain, mais certain dans la vérité. Autrement, c'est l'entêtement. Vous savez bien, celui qui est certain pour être certain, c'est un entêté. Celui qui est certain parce qu'il est dans la vérité, c'est la noblesse de l'intelligence. Et cette noblesse de l'intelligence, c'est vraiment cet affrontement de l'intelligence avec ce qui est. Je dis bien affrontement, parce que c'est à la fois la découverte de la primauté de l'être en acte, et en même temps la capacité de le connaître. Et en le connaissant, l'être en acte, noblesse nouvelle. Quand je connais ce qui est et que je dis que ma connaissance de ce qui est vraie, je saisis la noblesse de l'intelligence. Et cette noblesse de l'intelligence apporte quelque chose d'unique que l'être en acte ne dit pas. Quelle est cette noblesse de l'intelligence, de l'esprit, que l'être en acte ne dit pas, et que seule l'intelligence vraie possède? Elle possède la vérité. L'intelligence est capable de posséder la vérité. Et c'est la noblesse propre de l'esprit. Un esprit n'est noble que quand il est dans la vérité. Un esprit, c'est là où il acquiert son titre de noblesse. C'est d'être dans la vérité. C'est là où l'esprit acquiert sa capacité. propre d'esprit, d'être dans la vérité, de posséder la vérité. C'est quand même une découverte étonnante, profondément, de découvrir qu'on est dans la vérité. Et encore une fois, ça ne peut s'écouvrir que par rapport à l'être en acte. Donc, à ce moment-là, quand vous découvrez que vous êtes dans la vérité, vous pouvez dire que ce que vous affirmez est vrai. Or, ce que vous affirmez, vous le possédez. Mais vous le possédez dans un mode intentionnel. Cette noblesse de l'intelligence est une noblesse relative à l'être. Elle est intentionnelle. Elle est seconde. Mais elle possède quelque chose que l'être en acte ne possède pas nécessairement. Cette capacité d'être en conformité avec l'être en acte. Vous voyez, c'est très étonnant cela, parce que c'est l'esprit qui dédouble en quelque sorte l'être en acte. L'être en acte que je possède. Parce que c'est là la foire le plus noble, c'est la vérité, c'est d'être dans la vérité. C'est l'avoir le plus noble. Mais cet avoir le plus noble est relatif à l'être en acte. Alors, je crois que là, on touche ce qui caractérise l'esprit. L'esprit en acte, c'est d'être dans la vérité. Et l'esprit en acte, c'est d'être dans la vérité et d'être relatif, d'être conforme à l'être en acte. Cette conformité prendra des modalités différentes suivant la qualité propre de ma pensée. Alors c'est là où il serait extrêmement intéressant de hiérarchiser toutes ces modalités de l'être, de l'esprit qui est dans la vérité. Et une critique des sciences doit se faire dans cette lumière. Et elle ne peut se faire que dans cette lumière. Autrement, c'est descriptif. Une critique des sciences ne peut se faire qu'à partir de la découverte de l'être en acte. Puisque c'est la découverte en acte qui me permet de comprendre ce qu'est l'esprit dans toute sa noblesse d'être dans la vérité. Et l'esprit qui est dans la vérité sait qu'elle est dans la vérité de multiples manières. Pourquoi ? Parce que l'être en acte se présente à moi de diverses façons. Et je poserai la question, est-ce qu'il n'y a pas un être en acte qui est identique à l'esprit ? Puisque en moi, mon esprit est second par rapport à mon être. Et donc mon esprit n'est dans la vérité qu'en étant en dépendance de l'être en acte. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, comme dit Parménide, il y a un témoin, comme dit Parménide, un être dans lequel l'être et la vérité ne font qu'un. Aucune contradiction à ça. serait-il pas un être qui serait vérité de la vérité? C'est-à-dire en qui la vérité est identique à l'être en acte. Vous voyez, c'est très intéressant de voir que c'est à propos de la découverte de l'être en acte vrai et de la noblesse de l'esprit qui atteint la vérité que je me pose le problème du dépassement de cette dualité. Être vrai, vérité. C'est à propos de cette dualité. La dualité n'est jamais première. La dualité exige d'aller plus loin. Or, la dualité dans l'être en acte se fait dans la découverte de l'être vrai et de la vérité. Puisque tous les deux sont un être en acte. Mais l'un, dans l'existé simplicitaire, dans l'être en acte d'une manière absolue, et donc substantielle, et l'autre de l'être en acte intentionnel dans mon intelligence. L'intentionnalité n'étant jamais un mode substantiel, puisque l'intentionnalité est seconde. Oui, je crois que c'est important pour nous de saisir le moment le plus exigeant, donc celui qui s'impose le plus, de savoir s'il n'existe pas un être en qui l'être en acte et l'intelligence dans sa noblesse, l'intelligence qui possède la vérité. N'existe-t-il pas un être qui soit esprit par lui-même, et donc en qui l'être en est, l'être vrai et la vérité ne font qu'un, sont identiques? Autrement dit, ce que Parménide dit, le philosophe doit tenir compte quand même de Parménide, remis en pleine lumière avec Heidegger, et je comprends pourquoi Heidegger le met en pleine lumière à cause de cela. C'est que pour Parménide, l'être en acte et la vérité ne font qu'un. L'être vrai et la vérité ne font qu'un. Alors, est-ce que c'est mythique ou est-ce que c'est vrai? Parce que l'être vrai qui actue mon intelligence me met en présence de cette division de l'être en acte. Et c'est assez subtil, mais je crois que dès qu'on comprend la différence entre l'être en acte vrai qui actue mon intelligence et mon intelligence qualifiée par la vérité, qui se qualifie elle-même dans la vérité. Et donc une intelligence qui affirme la vérité. Dès que je saisis cette dualité, je saisis deux modes d'être en acte. Alors si je regarde ces deux modes d'être en acte, je vois l'intelligence, quand elle est vraie et quand elle a cette lucidité de dire qu'elle est vraie, qu'elle possède la vérité, qu'elle a la vérité, c'est son avoir. Et c'est l'avoir de l'intelligence, qui est un avoir unique, qui n'est pas du tout l'avoir matériel, avoir une terre, posséder un immeuble, posséder son petit déjeuner. C'est le premier sens de l'avoir, c'est quand on mange du pain. Je possède, personne ne peut me retirer le pain de la bouche. C'est l'expression de la propriété la plus forte. Et si quelqu'un veut me retirer le pain de la bouche, vous hordez. Instinct de défense. Pour bien montrer que c'est votre avoir. Et que personne ne peut y toucher. Et l'avoir suprême est le lien entre le pain et la vérité. Entre l'aliment et la vérité. L'avoir suprême, c'est la vérité. Alors, quand je regarde ces deux modalités d'être en acte, celui de l'esprit et celui de l'être, je peux comparer à ce moment-là ces deux modalités. Et voir que l'être en acte de l'esprit, de mon esprit, puisque c'est le seul que je connais, l'être en acte de mon esprit a quelque chose d'unique que je découvre pas de l'être en acte. Ça exprime la grande séduction d'idéalisme. C'est quand même une réalité. Le néoplatonisme est une réalité. Et le néoplatonisme nous guette toujours et nous séduit toujours. Celui qui n'a pas été séduit par le néoplatonisme, il lui manque une expérience. Il faut mieux la faire quand on est aux études qu'après. Parce que quand on est aux études, on pourra être rectifié. Tandis qu'après, on ne sera plus rectifié. Et on se laissera entraîner par le néoplatonisme. Il y a une terrible séduction. Alors, j'aime saisir cette séduction au point de départ. C'est de saisir la noblesse de l'esprit. La noblesse de l'esprit qui est vrai, qui est dans la vérité. Qu'est-ce que ça représente, ça, hein? Je suis dans la vérité en affirmant ceci et je vous affirme, c'est vrai. J'en suis certain. L'être vrai est antérieur à ce que j'affirme. Mais ce que j'affirme a ceci de très particulier, c'est que c'est la qualité de l'esprit. Alors, la vérité qui qualifie mon intelligence, possède quelque chose qui n'est pas explicité dans l'être en acte. Dans l'être vrai. C'est la qualité de l'esprit. La vérité possédée dans mon intelligence possède une formalisation que ne possède pas l'être en acte. Possède une splendeur. Si la beauté, c'est la splendeur de la forme, et si la vérité qui est dans mon intelligence explicite un aspect formel qui n'existe pas dans l'être vrai, ou qui est présent mais qui n'est pas explicité dans l'être vrai. La vérité explicite la forme. Ce qui montrerait bien que une philosophie de l'avoir est une philosophie de la forme et non pas de l'être en premier lieu. C'est la forme qui éclate. Mesurer pour être vrai. C'est vrai, qu'est-ce que c'est que la vérité? Adéquation de ce que j'affirme avec la réalité. Donc je reconnais que la réalité est mesure de ce que j'affirme. Et par le fait même, je reconnais que pour être vrai dans mon intelligence, je dois accepter la primauté. Unique. voyez qu'à ce moment-là, il n'y a que la connaissance de ce qui est en tant qu'il existe qui permet d'affirmer la primauté de l'être en acte sur l'intelligence qui, connaissant cet être en acte, est dans la vérité. Je crois que c'est là le duel le plus terrible qui existe et la séduction la plus grande qui fait que la plupart des êtres humains, point du suffrage universel, c'est écrasant. Des êtres humains considèrent que vraiment c'est l'intelligence qui mesure la réalité et qui la détermine. On ferait passer ça au vote, on aurait, je sais pas, 95%, je crois, aujourd'hui. Parce que il y en a combien qui font encore de la métaphysique? La grande inquiétude du pape, parce qu'il sent ça. Comment voulez-vous sauver la foi si mon intelligence mesure la réalité? Je ne veux plus. Évidemment, l'Esprit Saint peut. Mais la foi sera reçue dans un terrain qui sera tout le temps en contradiction avec elle. Donc la foi sera reçue comme un corps étranger. Et la foi étant reçue comme un corps étranger dans l'intelligence, au bout d'un certain temps, que l'intelligence est suffisamment forte, elle laissera la foi dans son domaine, bien circoncis. Et tout le reste de ma vie sera mesuré par mon intelligence et ma science. Pourquoi aujourd'hui la fameuse parole de Mono, c'est l'intelligence biologique qui, dans ses découvertes, doit déterminer l'éthique. Alors c'est affirmé spéculativement ou affirmé pratiquement. C'est quand même un fait. Alors, à quel moment l'erreur existe? Comment on a glissé à ça? Parce que, de fait, on a été séduit par la noblesse de l'intelligence. Que la noblesse de l'intelligence existe, c'est bien évident. Et sans doute, on a été séduit parce qu'on n'a pas voulu le reconnaître. Il y a des revanches de la nature terribles. L'intelligence a une noblesse unique. Elle peut affirmer la vérité. Si je ne reconnais pas cette noblesse, je serai séduit tôt ou tard par cette noblesse de l'intelligence. Mais je l'exalterai à ce moment-là comme étant la mesure de la réalité. Donc, vous voyez, si je compare l'être en acte vrai et la noblesse de l'intelligence qui est dans la vérité, je vois que la noblesse de l'intelligence qui est dans la vérité par rapport à toutes mes expériences, je dis bien, par rapport à toutes mes expériences, en prenant expérience au sens fort, impliquant le concours des sens externes. Cette noblesse de l'intelligence a quelque chose dans l'ordre formel dépasse toutes les réalités que j'expérimente et qui risque par le fait même, à cause de cette noblesse, à cause de cette explicitation parfaite de la forme, de s'imposer comme dépassant toutes les autres réalités et donc capable de les mesurer. Je crois qu'il faut sentir ça. C'est assez facile à sentir parce que c'est dans le mouvement actuel. Laissez-vous aller à descendre le fleuve. Et qu'est-ce qui est au cœur de cette descente du fleuve? C'est l'intelligence qui mesure toutes les réalités. Vous voyez donc, quand je parle de la noblesse de l'intelligence à la suite de saint Thomas, saint Thomas affirme la noblesse de l'intelligence. La noblesse de l'intelligence plus grande que celle de la volonté. C'est là, j'allais dire, l'arête profonde de l'union entre Thomas d'Aquin et Aristote. C'est le point précis. J'affirme la noblesse de l'intelligence. J'affirme que cette noblesse n'est en acte que lorsque l'intelligence est mesurée par l'être en acte, le vrai, et qu'elle respecte cette antériorité du vrai. Mais si l'intelligence prend conscience de cette noblesse d'une manière telle qu'elle refuse cette dépendance. Elle s'exalte, elle perd par le fait même sa noblesse. Et elle devient tyrannique. Est-ce que ce n'est pas là où on saisirait en premier lieu la fameuse dialectique du maître et de l'esclave? Est-ce que ce ne serait pas là où, de fait, Hegel l'a saisi parfaitement? Est-ce que ce n'est pas là où on peut saisir l'erreur de Hegel dans ce cas-là de fondamental? Vous voyez bien la dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave est mesuré par le maître. S'il n'était pas relatif au maître, il ne serait pas esclave, il ne serait pas serviteur. Donc, son statut de serviteur, c'est d'être relatif au maître. Mais le serviteur peut prendre conscience qu'il a quelque chose que le maître n'a pas. Il a des mains. Que le maître n'a pas. Il voyage dans sa petite chambre, dans sa petite auto, le maître. Il se laisse porter. Alors il n'a plus de main, il n'a plus de pied, il n'a plus de force, il n'est plus qu'un cerveau. Alors l'esclave qui a la force, eh bien, se dresse devant le maître en lui disant: c'est moi qui dois commander, parce que j'ai la force, parce que j'ai l'efficacité. Toi, tu n'as que la pensée, et sans moi, tu n'es rien. Parce que ton petit chariot, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est moi qui te porte. Tout révolte. Mais comme c'est curieux, poussé à l'extrême, c'est l'être vrai et la vérité. Réfléchissez à ça, parce que c'est, vous savez bien, cette question de la dialectique du maître et de l'esclave, c'est ce qui a commandé tout le marxisme. C'est l'intrusion de l'hégélianisme dans le marxisme. C'est pas Marx qui l'a fait, peu importe, c'est Engels qui a fait ça. C'est l'intelligence de Marx. Marx était après, ça s'est fortifié avec Lénine. Parce que Lénine était très intelligent. Lénine avait lu Aristote, la métaphysique d'Aristote, avec toutes les remarques. Alors là, il était beaucoup plus intelligent. En réalité, aujourd'hui, c'est Lénine qui demeure. C'est plus Marx, point de vue de la pensée. Et Lénine, intelligent, dit le marxisme doit évoluer en fonction de l'évolution de la science. Donc, il met le marxisme à la remorque du positivisme, de l'évolution de la science. Ce qui explique l'alliance de l'Est et de l'Ouest. Tout positiviste est lié au marxisme. Et le marxisme, alors, va passer devant. Oui, comme c'est étonnant de voir ça, que c'est ce problème de l'être vrai et de la vérité qui, de fait, est au cœur de ces deux orientations de la philosophie. Toutes deux reconnaissant la noblesse de l'intelligence, mais la reconnaissance, l'une reconnaissant cette noblesse de l'intelligence qui accepte d'être relative à l'être en acte, et l'autre qui prend conscience de sa supériorité, non pas dans l'ordre de l'être, mais dans l'ordre de la forme. Et c'est vrai, quand Aristote définit l'intelligence comme le lieu de rencontre de toutes les formes, Aristote a senti la séduction. Il le dit textuellement dans le dernier mot. L'intelligence est capable de recevoir toutes les formes et donc de les organiser comme elle veut. C'est bien ça la dialectique. Et c'est bien ça le point de contact entre Aristote et la dialectique. C'est cette affirmation que le nous, mon intelligence, est capable de recevoir toutes les formes, de les assimiler et de les organiser comme elle veut. Donc la noblesse de l'intelligence, c'est dans la forme. Dans la forme reçue dans l'intelligence selon un mode intentionnel. Alors c'est le selon un mode intentionnel qui est complètement gommé, complètement télescopé pour ne regarder que la forme. Et c'est l'oubli de voir que la forme est une modalité de l'être. Ce n'est pas l'être. Et que la forme ne peut se comprendre que par rapport à l'être. Toute son intelligibilité vient de l'être. C'est l'être qui est intelligible. Ce n'est pas la forme en premier lieu. Alors, ceci, voyez, nous permet de mieux comprendre, de mieux saisir ce qu'il y a de si grand dans l'esprit. Et que l'esprit, tel que je le conçois dans ma connaissance, n'étant pas premier, est toujours relatif à l'exister, à l'être en acte. Alors, si on voulait pousser un tout petit peu plus loin, on voit que c'est l'être qui est substance. Ce n'est pas Tonnerre.